Bonjour à tous, c'est d'un monstre sacré dont nous nous apprêtons à parler toute cette semaine, car jusqu'à jeudi, Victor Hugo est à l'affiche de la Compagnie des auteurs dans une émission proposée par Chloé Casmarek, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault, avec à la console Alexandre Dang. Un monstre sacré, oui, l'expression est galvaudée, mais elle s'applique si bien à cet homme-là. Monstrueux, il l'est par la masse de travail qu'il a accompli tout au long de sa vie. Ses romans monumentaux d'une érudition impressionnante, ses pièces et ses poèmes d'une ambition totale, ses prises de position politiques, libres et assumées jusqu'au bout, Hugo avait faim de tout et il a tout dévoré. Sacré ensuite, car il reste le grand écrivain populaire français sans égal ou presque, connu et admiré dans toutes les classes de la population. Sa réputation a tout de suite dépassé nos frontières et son regard, sage et révolté, incarne à lui seul un mélange de grandeur et de justice auquel notre pays aime à s'identifier. Hugo semble avoir oscillé toute sa vie entre le terrestre et le sublime. Il a cherché à s'élever au-dessus de sa condition de simple mortel tout en restant profondément humain, nous le verrons. Et nous le verrons d'abord jeudi au travers de sa poésie avec la chercheuse Claude Millet qui nous parlera en particulier de la légende des siècles. Nous le verrons également mercredi grâce à Arnaud Laster qui nous parlera lui des Misérables. Nous le verrons enfin demain à travers un autre immense roman d'Hugo d'une totale originalité. C'est évidemment Notre-Dame de Paris et c'est Adrien Goetz qui nous en parlera. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour tenter en seulement une petite heure de retracer la luxuriante biographie de Victor Hugo, nous sommes en votre compagnie. Jean-Marc Ovas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature et spécialiste de l'œuvre de Victor Hugo, dont vous êtes le biographe attitré, pourrait-on dire, avec pour l'instant deux volumes que vous avez publiés aux éditions Fayard en 2001 et 2008. Victor Hugo avant l'exil, 1802-1851, et Victor Hugo pendant l'exil, 1851-1864, il en reste donc encore un.
Absolument.
Où en êtes-vous?
Le deuxième tome, c'est pendant l'exil 1, puisque 64, c'est pas la fin de l'exil. L'exil court jusqu'à 70.
C'est ça.
Mais je ferai un seul tome pour la fin de sa vie.
Et pourquoi cette césure, alors, justement, là?
Ah, c'est intéressant. Parce qu'en 64, il a écrit un livre qui n'est pas le plus connu aujourd'hui, qui s'appelle William Shakespeare. Et qui est son grand testament esthétique. C'est pas une biographie de Shakespeare. C'est un essai. C'est un peu comme la préface de Cromwell, mais 30 ans plus tard. Et c'est la somme théorique de sa vie. C'est les conclusions qu'il a tirées de la réception des Misérables. C'est vraiment une espèce de sommet de son œuvre. C'est un autre Victor Hugo encore qui apparaît.
Donc c'est plutôt depuis l'exil qu'il faudra intituler ce troisième tome. On l'attendait pour le bicentenaire de Waterloo en 2015. Bon, c'est en cours, hein, c'est en chemin. Alors, on peut comprendre que vous ayez pris un peu de retard, puisque vous avez vous-même calculé qu'il faudrait environ une vingtaine d'années rien que pour lire ce qui a été écrit sur Victor Hugo et qui est à la Bibliothèque nationale.
Oui, sans compter l'œuvre de Victor Hugo elle-même, qui est assez longue à lire. Évidemment, vous avez rappelé que c'était une œuvre importante en volume aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on a exactement, justement, dans l'œuvre d'Hugo?
On a tout. C'est bien la difficulté de cet auteur, c'est que vous avez rappelé qu'il domine dans tous les genres, ce qui est très rare en fait en littérature française. On n'a pas tellement l'équivalent. On a des grands dramaturges, des grands poètes, des grands romanciers. Rarement, ça arrive, on a des auteurs qui excellent dans les deux genres. Mais alors dans les trois, c'est quasiment exceptionnel.
Donc une dizaine de romans, une dizaine de drames, de pièces de théâtre.
Oui, plus de pièces de théâtre que ça encore. Voilà, le théâtre, c'est un peu particulier. Il y a vraiment deux périodes dans sa vie. Il y a la première période où il écrit des pièces régulièrement, qui met en scène, qui sont jouées, qui remportent un grand succès public, disons, entre Hernani et Les Burgraves. Et puis après, on a quelquefois dit qu'il avait arrêté de faire du théâtre, ce qui est tout à fait faux, puisqu'il a continué à en écrire toute sa vie. Et c'était vraiment un vrai dramaturge important. Il aimait beaucoup ça. Et simplement, pendant l'exil, on a interdit la représentation de ses pièces, donc il était complètement censuré. Mais il a continué à en écrire. Et c'est la deuxième partie de son théâtre, un peu moins connue, très séduisante aussi, maintenant, qui est davantage jouée, qui est davantage jouée qu'au 19e siècle, qui est le théâtre en liberté. Il appelait ça le théâtre en liberté. Toute une série de pièces, 1000 francs de récompense, mangeront-ils, qui sont extrêmement intéressantes aussi. Donc on a comme ça deux aspects dans sa carrière théâtrale. Voilà. Donc ça, je rappelle juste parce que c'est toujours intéressant de pas croire qu'il a terminé sa carrière avec Les Burgraves.
Et tout à l'heure, Jacques Nerson, pendant la chronique qui lui est dévolue, nous parlera justement du théâtre de Victor Hugo. Alors, il manque peut-être un genre quand même qui vous aurez bien arrangé, Jean-Marc Ovas, c'est s'il avait écrit une autobiographie. Or, il ne l'a pas fait.
Effectivement, beaucoup là aussi, beaucoup de grands auteurs et même ses modèles, à commencer évidemment par Chateaubriand, ont écrit eux-mêmes leur vie. C'est pas son cas. Alors il a fait travailler son entourage. Donc on a presque intégré dans ses œuvres complètes, intégré dans certaines séries de ses œuvres complètes, un livre qui s'intitule Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, oui. Un livre qui n'est pas signé donc, dans sa première édition. Ce témoin de sa vie, c'est sa femme, tout simplement, Adèle Hugo, qui raconte qu'elle, pendant l'exil, pour occuper l'exil, elle demande à Victor Hugo de raconter sa vie, et elle écrit le soir ce qu'il lui a raconté pendant la journée, et comme ça elle avance son livre petit à petit. Alors c'est une œuvre assez un peu collective puisqu'elle a été corrigée par d'autres. On a dit que c'était Hugo qui l'avait écrite. Non, il l'a dite, il l'a pas écrite.
Il l'a dite ou il l'a dictée?
Non, il l'a pas dictée, il l'a raconté vraiment. C'est ça, c'était à table, il racontait ses souvenirs et elle a noté. Et d'ailleurs, c'est un livre très intéressant et en même temps très partiel puisque alors on vient au théâtre, Adèle Hugo était vraiment très proche de lui pendant toute la première période théâtrale et elle était fascinée par le théâtre. Donc il y a énormément d'histoires de théâtre.
Donc c'est vraiment son livre à elle.
C'est quand même aussi son livre à elle qui lui a été rendu en 1985 puisque là des chercheurs sous la direction de Guy Rosa et Anne Huber-Sfeld ont publié les brouillons d'Adèle, donc avant la correction de l'entourage d'Hugo, et ont redonné ce livre à son auteur en l'intitulant Victor Hugo raconté par Adèle Hugo à partir des brouillons avant les corrections qui pouvaient s'apparenter à des censures de l'époque. Et c'est un livre très très séduisant, très charmant, mais en même temps très partiel.
Donc pas d'autobiographie, mais en même temps Hugo lui-même se projette dans la plupart de ses œuvres et il projette des morceaux, des pans entiers de sa vie, Jean-Marc
Ovas. Oui, et il passe sa vie à raconter sa vie finalement de façon cryptée. C'est ce qui rend la tâche du biographe un peu difficile. Bien sûr, dans ses œuvres, comme tous les auteurs, mais peut-être plus que d'autres auteurs, puisque je crois que j'avais raconté au début du premier tome de la biographie à quel point presque chaque poème peut avoir une dimension biographique. Il a aussi écrit des choses plus proches des outils dont se sert un biographe, c'est-à-dire une correspondance abondante, et puis des carnets. Il tenait ses carnets, il prenait des notes. Donc on a énormément de textes de nature autobiographique.
Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Si débile qu'il fût, ainsi qu'une chimère, abandonné de tous excepté de sa mère, et que son couployé, comme un frêle roseau, fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelque jour quel lait pur, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigué pour ma vie en naissant condamné, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée. Ange qui sur 3 fils attachait à ses pas et pendait son amour et ne mesurait pas. »
la compagnie des auteurs sur France Culture et ce poème lu par Guillaume Gallienne. Ce siècle avait deux ans, extrait des feuilles d'automne. Là, on est dans l'autobiographie, même pas tellement déguisée, Jean-Marc Ovas.
Oui, c'est vraiment l'exemple type de poème autobiographique. En plus, c'est dans les feuilles d'automne, c'est le premier poème, donc il le met au début du recueil. Poème très beau, qui était presque un tube au 19e siècle, au 20e siècle encore peut-être.
On le connaissait par cœur.
Tout le monde le connaissait par cœur, maintenant beaucoup moins. Il est intéressant parce qu'il mentionne, enfin, notamment aussi parce qu'il mentionne la ville de Besançon qu'il a vu naître. Mais poème autobiographique, la fin est peut-être un peu moins connue, mais dans laquelle Hugo insiste beaucoup sur ses deux ascendances, sur son père et sa mère qui ne s'entendaient pas, mais qui représentent, dit Hugo en tous les cas, Hugo le reconstitue comme ça, qui représente les deux France, avec une mère censée représenter le royalisme et l'ancien régime, et un père censé représenter incarner la campagne républicaine, puis Bonaparte, puis Napoléon, etc. Donc les deux France qui s'opposaient, que Hugo, écrit-il, a dans son propre sang. Au sang qu'on... Il parle de sa veine, hein, le sang qui coule dans sa veine. Et c'est très intéressant, parce que dès ce moment-là, il a la conscience il occupe la position d'incarner finalement les contradictions de la France lui-même, donc de les réunir.
Et la guerre que peuvent se livrer ces deux Frances, en tout cas la bataille, se retrouve dans le couple des parents de Victor Hugo, qui eux-mêmes ne s'entendent pas.
Voilà, donc ce qui est intéressant tout de même, c'est que c'est une recomposition de Victor Hugo, parce que à l'origine, bon, on l'a montré, cette mère qu'il élève dans une opinion très royaliste et très anti-napoléonienne, etc., ça a été l'évolution de sa mère, mais à l'origine, elle était tout à fait progressiste et républicaine, comme son père, au moment où elle l'a épousé. Donc, c'est aussi une large, d'une certaine manière, une reconstitution a posteriori de Victor Hugo, qui incarne dans cette poésie aussi donc toute une dimension politique. C'est le premier poème des Feuilles d'automne. C'est un poème qui paraît une autobiographique, lyrique. En même temps, c'est un poème très politique. Et ça, c'est remarquable dans son œuvre, puisque même si on remontait encore un peu avant dans les premières œuvres, il y a toujours cette dimension politique dans l'œuvre de Victor Hugo.
Alors Jean-Marc Ovas, vous résumez les premières années de Victor Hugo de cette manière-là. Après le nourrisson inquiétant de Besançon, le bébé pleurnicheur de la rue de Clichy, l'enfant grave et apeuré du voyage en Italie, parce que durant le voyage en Italie, ses parents ne s'entendent pas du tout. Il connaît, Victor Hugo, une sorte d'âge d'or dans la propriété des Feuillantines à Paris, rue Saint-Jacques, où sa mère a déniché une maison avec un jardin. Alors, cette trajectoire de l'enfance de Victor Hugo, que peut-on en dire ?
Oui, c'est là aussi les Feuillantines, c'était un épisode très très connu autrefois quand on apprenait de la poésie. C'est un des très beaux poèmes. C'est en même temps le moment de bonheur dans l'enfance de Victor Hugo, qui a été une enfance par bien des aspects tragiques et très compliqués donc dans sa vie personnelle, puisque il était avec ses frères au cœur du conflit qui s'est déclenché très très rapidement entre ses parents et qui a été vraiment assez violent. Tout ça dans une Europe en feu et à sang, puisque c'était l'époque des grandes guerres napoléoniennes.
Il suit son père.
Il est ballotté entre ses deux parents. Donc c'est sa mère qui, souvent n'ayant plus d'argent, parce que son père ne paye pas la pension, parce qu'ils sont vraiment disputés, prend ses enfants et les amène chez leur père. Mais leur père est en poste en Italie à un moment, puis à un autre moment en Espagne. Des voyages de cette ampleur à cette époque-là, dans une Europe en feu à feu et à sang, c'était quelque chose d'absolument inimaginable. Donc il a vraiment été ballotté dans tous les sens du terme avec ses très grands voyages pour l'époque. Et ce qui est amusant, c'est que plus tard, il voyagera beaucoup moins que tous les grands auteurs, mais il aura déjà beaucoup voyagé dans son enfance. Alors, le voyage en Italie, a été un peu estompé dans ses souvenirs par le voyage en Espagne qui a suivi, puisque le père de Victor Hugo a suivi le roi Joseph dans ses différents postes, d'abord en Italie, ensuite quand il est devenu roi d'Espagne. Et ce voyage en Espagne l'a beaucoup plus marqué, puisqu'il a duré beaucoup plus longtemps. Et puis il s'est retrouvé, comme le père voulait l'arracher à l'influence qu'il jugeait pernicieuse de sa mère, a enfermé ses enfants en pension, dans une pension complètement désorganisée par la guerre, à Madrid, où il est resté pendant un an, et ça a été une expérience à la fois traumatisante et, bien sûr, cardinale pour Hugo, puis qui en est devenu quasiment un auteur espagnol.
Oui, parce que là, il va parler espagnol, il va presque oublier son français.
Voilà, il s'amusait beaucoup à raconter à la fin de sa vie que si Napoléon n'avait pas commencé à perdre la guerre en Espagne, puis finalement la chute de l'Empire commence là, bien avant la Russie, eh bien, il était en train de devenir un auteur espagnol, il parlait moins français, il parlait presque plus français, il parlait plus qu'espagnol, et il serait devenu, dit-il, un grand auteur espagnol.
Alors c'est un enfant qui a des capacités assez extraordinaires, et qui a cette phrase célèbre, à 14 ans, il note dans son carnet, « Je veux être Chateaubriand ou rien ».
On retrouve l'influence de sa mère, donc dans toutes ces histoires, il faut bien voir que son père n'avait plus ses enfants, donc c'était vraiment la mère qui les élevait, donc dans le culte de l'ancien régime, de la royauté, donc vraiment le culte de Chateaubriand, c'était le modèle, et pendant longtemps, dans ses premières années, non seulement Hugo aurait dit cette phrase et l'aurait noté, bien qu'on n'ait pas retrouvé l'autographe, mais enfin bon, en tout cas, c'est sans doute, le sens est certainement reflète la réalité, et on trouve en revanche dans tous ses premiers poèmes, ce sont des textes de Chateaubriand, qui était quand même un prosateur beaucoup plus qu'un poète, et Hugo fait des poèmes à partir des textes de Chateaubriand. Donc on a un peu, ses premiers poèmes, c'est du Chateaubriand en vers.
Donc il y a cette idée déjà chez cet enfant qu'il va exercer une influence intellectuelle sur la nation.
Peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est tellement son modèle que ça va loin, puisque ça va rester son modèle pendant assez longtemps. Et effectivement, Chateaubriand a été pair de France, Hugo deviendra pair de France. Alors Chateaubriand a été ministre des Affaires étrangères, Hugo n'est pas devenu ministre, mais il s'en est fallu de peu. Et donc effectivement, l'influence de Chateaubriand peut se mapper. Chateaubriand est un personnage fascinant, Hugo l'a été aussi d'une certaine manière. Il y a vraiment, c'est une empreinte très forte que Chateaubriand a eue sur lui.
Donc tout réussit à cet enfant sublime, ses premiers essais poétiques sont immédiatement récompensés, l'Institut salue l'un de ses premiers poèmes alors qu'il a seulement 15 ans, l'Académie de Toulouse lui décerne le Lys d'or à 18 ans, le roi lui alloue la somme de 500 francs pour son ode sur la mort du duc de Berry, on pourrait continuer comme ça assez longtemps. Et du côté amoureux, ça se passe pas si mal non plus, puisqu'il finit par obtenir la main de son ami d'enfance, Adèle Fouché.
Voilà, qui est lié donc à ce jardin des Feuillantines, puisque quand il était enfant dans ce jardin extraordinaire, qui était vraiment un jardin immense et remarquable, donc qui était un reste d'une abbaye ruinée ou qui n'avait pas encore été lotie, il jouait avec une camarade qui était à peu près la seule fréquentation de sa mère, et sa mère était amie de ses parents, et cette jeune Adèle Fouché deviendra effectivement son épouse.
Ils auront 5 enfants,
oui.
Léopold qui meurt très tôt, Léopoldine qui va mourir mais plus tard. En fait, c'est une série de drames dans la famille Hugo et qui va de toute façon marquer très profondément la vie de Victor Hugo.
Oui, sa vie est marquée effectivement par un nombre de drames assez considérable, mais pour l'instant, en tout cas dans les premières années, à part la mort prématurée de ce premier enfant Léopold, on peut dire que les années 20, ces années où après avoir été le poète lauréat, il devient au centre du mouvement romantique, il fréquente les romantiques, etc. C'est une période plutôt heureuse et remarquable dans sa vie.
Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé, j'ai plus d'un souvenir profondément gravé. Et l'on peut distinguer bien des choses passées dans ces plis de mon front que creusent mes pensées. Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux, tombé de lassitude au bout de tous ses vœux, pâlirait s'il voyait comme un gouffre dans l'onde. Mon âme ou ma pensée habite comme un monde. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté, tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté, mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse, les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse, et quoique encore à l'âge où l'avenir sourit, le livre de mon cœur à toute page écrit.
Et on continue d'avancer dans ce même poème de Victor Hugo, Ce siècle avait deux ans, Jean-Marc Ovaz.
Oui, ce qui est remarquable, quand il écrit ses vers, bon là je disais que les années 20 avaient été heureuses, là il a 28 ans, 29 ans quand le poème est publié, 28 ans quand il l'écrit, vous entendez ce qu'il dit, on a l'impression que c'est un vieillard qui parle.
Exactement.
Et alors son ami Charles Nodier, qui était bien plus âgé que lui, Bisontin aussi, lui avait écrit vraiment, il n'y a pas que ce poème dans Les Feuilles d'automne qui est triste, il y en a aussi un certain nombre d'autres. Et il lui écrit vraiment, laissez-la ça à vos amis qui sont âgés, mais c'est pas à vous d'écrire ça. Et il est frappé, il lui fait remarquer à quel point ce poème et ses poèmes sont tristes par rapport à son âge. Mais là, effectivement, les années 30, c'est une grande crise dans la vie de Victor Hugo, dont les feuilles d'automne sont le reflet.
Alors il y a aussi Juliette Drouet qui va prendre beaucoup de place dans la vie de Victor Hugo.
Oui, cette crise qui apparaît dans Les Feuilles d'automne, c'est juste avant l'apparition de Juliette Drouet dans sa vie. C'est pour ça que c'est une crise terrible. C'est-à-dire que, bon, pour le dire vite, donc il a eu enfant sur enfant quasiment, hein, un enfant tous les deux ans. Donc il a quatre enfants qui ont survécu. Il paraît être au sommet de sa gloire, il triomphe avec Hernani, mais intérieurement il est totalement détruit puisque il a eu son meilleur ami Sainte-Beuve a une liaison avec son épouse Adèle. Ça a été une crise terrible pour lui, dont vraiment plusieurs poèmes disent cela dans Les Feuilles d'automne. Et il est véritablement dévasté jusqu'à la rencontre heureuse, deuxième épisode très heureux dans sa vie, la rencontre avec Juliette Drouet en début de l'année 33, donc un ou deux ans après ce recueil des Feuilles d'automne si sombre et si triste. Et il lui dira, quand il l'aura rencontré, très vite d'ailleurs, quand il l'aura rencontré, il lui dira qu'il a ressuscité, hein, qu'il est né deux fois, il est né en février à Besançon 1802, et il est né en février, toujours le même mois, son mois favori, il est né en février 33, une deuxième fois dans les bras de Juliette Drouet.
Et donc ce couple, ce double couple, ce double foyer, comme vous l'appelez, va continuer comme ça durant toute la vie de Victor Hugo.
Ce qui est incroyable, puisque avoir une liaison avec une actrice à l'époque, c'était tout à fait banal, pour le dire rapidement, même pour les auteurs, hein, c'était le cas de Dumas, c'était le cas de Vigny, c'était le cas de bien d'autres, mais c'était des passades, ou c'était des histoire relativement rapide. Avec Hugo, rien n'est jamais comme avec les autres, et Hugo prend ça extrêmement au sérieux, du coup son entourage évidemment, et personne ne le comprend, aussi bien ses amis auteurs que sa famille, tout le monde désapprouve, mais lui prend ça très au sérieux, et cette liaison va durer 50 ans.
Mais il y aura d'autres femmes en plus.
Plus tard.
Et la question de la fidélité, c'est questionné par Victor Hugo ?
Oui, bien sûr, on peut considérer qu'il a été extrêmement fidèle, en sens que il a jamais pensé divorcer, si vous voulez. Il est toujours resté avec son épouse. Il a jamais voulu épouser même Juliette après la mort de son épouse. Manifestement, on verra ça plus tard avec l'autre liaison dont à laquelle vous faites allusion, je pense, c'est cette liaison très importante qu'il a eue aussi avec une femme qui s'appelait Léonie Biard, beaucoup plus jeune que lui, donc plusieurs années, bien des années encore après, enfin une dizaine d'années après. Léonie Biard n'a pas supporté qu'il ait cette liaison avec Juliette Drouet en même temps, et lui-même n'arrivait pas à se décider. Donc il y avait une certaine impossibilité chez lui à rompre avec le passé. Ça peut être une fidélité poussée à l'extrême.
Alors, d'un point de vue littéraire, il va connaître à ce moment-là des hauts et des bas, et paradoxalement, c'est la Révolution en 1848 qui va redonner à sa vie un second souffle.
Oui, cette première période, donc qu'on appelle avant l'exil, mais après on a pu diviser sa vie comme cela, mais ces années 30, 40, on l'appelait la course aux honneurs, puisqu'il devient, j'avais oublié dans la liste de ce qu'il rapprochait de Chateaubriand, il devient d'abord académicien, donc il rentre à l'Académie française avec le soutien que Chateaubriand lui a toujours marqué depuis le début. Donc avec le soutien de Chateaubriand, il entre péniblement. D'ailleurs, il a été rejeté plusieurs fois à l'Académie française, mais il y entre en 41. Ensuite, il devient pair de France en 45. C'est vraiment la course aux honneurs. On attend qu'il devienne ministre. C'est aurait été la voie logique. Mais arrive la révolution de 48, qu'il n'avait pas tout à fait anticipé, ni prévu, du moins aussi rapide. Et donc, son œuvre, bon, double drame avec la mort de sa fille Léopoldine aussi. Bref, il ne publie plus de littérature, on va dire, à partir des Burgraves et du Rhin, à peu près au début des années 40, pour se consacrer cette fois à la vie politique, à laquelle il pensait depuis longtemps, hein, toujours comme Chateaubriand, et puis comme son deuxième modèle. On a beaucoup parlé de Chateaubriand, mais il faut parler aussi de Lamartine, c'est vraiment les deux modèles de Victor Hugo, hein. Chateaubriand d'abord, Lamartine ensuite. Lamartine s'était lancé dans la politique, lui se lance aussi sur ses traces dans la politique, et apparemment semble avoir renoncé à la littérature.
Donc révolution de 48, puis coup d'État du 2 décembre 1851, c'en est trop pour Victor Hugo, qui décide de partir. Alors il part d'abord en Belgique, à Bruxelles.
Oui, enfin il décide de partir, façon de parler, puisqu'il est expulsé, mais bon, évidemment, il prévoit.
Il serait resté ?
Il savait, de toute façon, le coup d'État a lieu, il prend la tête en décembre, il prend la tête de la résistance, il signe un appel aux armes de son nom, ce qui est quand même pas rien. Donc, il est poursuivi, il est pourchassé, et il s'en va, mais trois semaines après, il est dans la liste des proscrits officiels du régime, donc il sera interdit de séjour en France. Donc voilà, on peut dire qu'il est parti de lui-même, mais enfin, c'est joué avec les mots. Mm-hmm. Il est vraiment expulsé du territoire. Et là, arrive pour lui, ce qui était vraiment exceptionnel et ce qui est remarquable dans sa vie, une deuxième carrière. Les dates de sa vie jusque-là, donc 1802-1851, c'est à peu près la vie de Balzac, à peu de choses près. Donc déjà la vie d'un auteur. Lui-même, il a une œuvre qui serait suffisante pour faire un auteur important. Et il semble un peu s'être essoufflé à la fin. Et puis, l'arrivée en exil, une colère furieuse contre ce qui s'est passé, et un nouveau départ pour une nouvelle œuvre.
Et colère contre Napoléon III.
Donc, c'est fait. Du rugir de honte, le canon, te voilà, nain immonde, accroupi sur ce nom. Cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure. Toi qui n'as jamais pris la fortune qu'à l'heure, te voilà presque assis sur ce hautain sommet. Sur le chapeau d'Essling, tu plantes ton plumet. Tu mets, petit pousset, ces bottes de 7 lieues. Tu prends Napoléon dans les régions bleues. Tu fais travailler l'oncle et perroquet ravi, grimper à ton perchoir l'aigle de Mondovie. Tersite est le neveu d'Achille Péliade. C'est pour toi qu'on a fait toute cette Iliade. C'est pour toi qu'on livra ces combats inouïs. C'est pour toi que Murat, aux Russes éblouis, terrible, apparaissait, cravachant leur armée. C'est pour toi qu'à travers la flamme et la fumée, les grenadiers pensifs s'avançaient à pas lents. C'est pour toi que mon père et mes oncles vaillants ont répandu leur sang dans ces guerres épiques. C'est pour toi qu'on fourmillait les sabres et les piques, que tout le continent trembla sous Attila, et que Londres frémit et que Moscou brûla. C'est pour toi, pour tes deutes et pour tes mascarilles, pour que tu puisses boire avec de belles filles et la nuit t'attabler dans le Louvre à l'écart. C'est pour Monsieur Fialin et pour Monsieur Mocquart que l'âne d'un boulet eut la cuisse coupée, que le front des soldats entrouvert par l'épée saigna sous le shako, le casque et le colbac, que la salle à Wagram, Duroc, Sarrachen expirèrent frappés au milieu de leur route, que Caulaincourt tomba dans la grande redoute et que la vieille garde est morte à Waterloo. C'est pour toi qu'agitant le pain et le bouleau, le vent fait aujourd'hui sous ses âpres haleines blanchir tant d'ossements, hélas, dans tant de plaines.
Extrait du poème Napoléon III, Jean-Marc Ovas, tiré du recueil des châtiments et lu par Guillaume Gallienne. Alors l'exil symbolisé donc par cette haine de Napoléon III, ce sera finalement une période très créatrice, hein, vous le disiez, pour Victor Hugo.
On l'entend derrière ce poème, remarquable poème satirique, et c'est pas la poésie qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pas comme ça qu'on imagine la poésie souvent, hein. C'est une poésie extrêmement violente, et extrêmement efficace, et jubilatoire en même temps, je crois qu'on l'a bien entendu. Hugo est d'autant plus furieux que par sa poésie dans laquelle il avait, avant l'exil, réévalué la carrière de son père, son engagement napoléonien, il est pour quelque chose, même pour une grande part, dans le mythe napoléonien français. Et donc, que ce mythe soit dégradé à ce point par le neveu, le rend doublement furieux.
Il va rester 20 ans en exil, est-ce qu'il pouvait prévoir, est-ce qu'il pensait, selon vous, que cela durerait si longtemps?
Non, au début, vraiment, les premières années, on sent qu'il est prêt à rentrer rapidement. Il a même des annonces, des visions pour un retour proche. Et puis, rapidement, enfin, au bout de quelques années, 3-4 ans, là, il comprend, à partir du moment où il passe de Jersey, bon, Bruxelles, puis Jersey, puis Guernesey, quand il passe de Jersey à Guernesey en 55, il s'achète une maison à Guernesey. Là, il a compris que le fait qu'il achète une maison prouve qu'il a compris que l'exil risquait de durer assez longtemps et il pensait même mourir en exil.
Et vous parlez de vision, c'est parce que Victor Hugo découvre qu'on peut faire parler les esprits, faire tourner les tables.
Oui, c'est la grande activité, c'est une des grandes activités dont on parle beaucoup à Jersey, dans les années de Jersey, qu'il ne faut pas, je crois, trop surévaluer. Hein. C'était aussi... Enfin, je dis ça parce qu'on en parle parfois un peu à tort et à travers. Ça n'a pas été... c'était une activité collective, donc avec toute sa famille. Il ne participait pas toujours, loin de là. Mais il a été intéressé, comme il était intéressé partout.
Jean-Marc Ovas, on va continuer de parler de Victor Hugo avec vous d'ici quelques minutes. Le temps pour nous d'aller faire un petit tour au théâtre.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et au théâtre, nous y allons avec vous, Jacques Nerson. Bonjour Jacques.
Bonjour Mathieu.
Critique au magazine L'Obs. Alors pour commencer, on a évidemment envie de vous demander votre opinion de manière générale sur le théâtre de Victor Hugo. Est-ce que vous l'avez vu beaucoup représenté ces dernières années?
Oui, on représente toujours, mais je dois vous avouer que, contrairement à notre invité, je ne pense pas que ce soit un domaine où Victor Hugo est vraiment excellé. Il a obtenu un énorme succès. À l'époque, de toute façon, même pour des raisons financières, il fallait écrire pour le théâtre. C'était un des seuls moyens de bien gagner sa vie, comme le cinéma, si vous voulez, aujourd'hui, pour les romanciers. Et donc, c'était un passage obligé. Est-ce que son théâtre est le meilleur de l'époque? Et personnellement, je pense que, par exemple, le théâtre de Musset, même s'il est moins abondant, est un théâtre beaucoup plus parfait. Le théâtre de Hugo est très souvent mélodramatique et je pense que les meilleures pièces sont celles où il est en liberté. Alors c'est peut-être la deuxième partie, mais même des pièces comme Angelo tirant de Padoue, quand il y mêle de la comédie, ça va assez bien. Les blures graves et autres, je trouve ça un peu assommant aujourd'hui.
Ça vous semble aussi difficile à mettre en scène ou à jouer?
C'est un théâtre très avec des sentiments très très excessifs, une langue que je me permets de trouver un peu tarabiscotée. J'ai pas une folle admiration pour ce théâtre-là. Mais alors, moi, je vais vous parler d'un spectacle.
Oui, mais attendez, je voudrais quand même une toute petite réaction de Jean-Marc Ovas là-dessus. Oui,
non, évidemment, je suis pas d'accord, mais vous savez, la langue de Lucrèce Borgia, par exemple, on prend une pièce en prose, c'est extrêmement efficace.
Mais vous prenez une pièce en prose, précisément.
Absolument. Oui, mais bon, il y en a eu aussi.
Mais je suis d'accord pour Lucrèce, je suis d'accord pour Angelo.
Et en tout cas, quand un metteur en scène, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, monte, depuis plus de temps que ça, monte du Hugo, ça marche. C'est un théâtre, je veux dire, c'est pas la preuve que c'est du bon théâtre, mais en tout cas, c'est extrêmement efficace.
Alors, il y a une pièce, on sait pas si elle marche, vous allez nous le dire, Jacques Nerson. C'est pas vraiment une pièce de théâtre de Hugo, c'est une adaptation.
C'est une adaptation d'un roman.
Les derniers jours du condamné.
Et un roman qui est très, très, très étonnant, parce que c'est un roman, d'abord, qui a été écrit alors que Hugo était encore jeune, dans une époque un peu répressive. C'était quand même la fin du règne de Charles X. C'était pas, et il va prendre fait et cause contre la peine de mort. Et il le fait au moyen, donc, d'un récit où il se met à la place du condamné à mort. Et, ce qui a dérouté beaucoup ses lecteurs et même ses amis, c'est qu'il ne donne pas de nom au personnage du condamné à mort, qui reste anonyme. Il ne dit pas en quoi son crime a consisté. C'est-à-dire le personnage dit « je suis coupable », mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et le personnage, d'ailleurs, exprime assez peu de remords. Il exprime surtout sa crainte de la mort, sa peur tout à fait légitime. Et c'est un livre qui a beaucoup compté pour cette cause, qui n'a abouti que 150 ans après.
Et qui est donc mis en scène en ce moment à Paris par François Boursier, je crois.
Exactement.
Adaptation de David Lainé et interprétation William Mesguich. Je vous êtes allé voir cette pièce au Petit Héberto.
Voilà, aller voir ça au Petit Héberto où ça se joue à 19h. Le problème du spectacle, c'est que Boursier entraîne un peu William Mesguich vers un jeu un peu larmoyant avec beaucoup de cris sans raison. Le personnage se jette à terre toutes les 5 minutes. Bon,
il faut du grand calme pour que ça vous plaise, Jacques Mersan.
En tout cas, ça pourrait être joué avec plus de sobriété. C'est écrit avec une certaine sobriété, donc je trouve que le jeu dramatique ne rejoint pas vraiment le style du livre. Néanmoins, c'est un texte passionnant.
Vous l'avez vu, Jean-Marc Ovaz ?
Non, je ne l'ai pas vu, mais effectivement, c'est un texte remarquable. Et oui, il y a un chapitre effectivement dans le roman qui s'appelle « Mon histoire » et qui reste blanc avec des points de suspension, oui. Ce qui est difficile à montrer au théâtre.
C'est à voir au théâtre du studio Héberto, le Petit Héberto. Et c'est jusqu'au 3 novembre prochain à Paris. Merci beaucoup, Jacques Mersan. La compagnie des auteurs, elle se remet en route entre la France et Guernesey dans le sillage de ce monstre sacré de la littérature française qu'était Victor Hugo. Nous sommes en compagnie de son biographe Jean-Marc Ovaz et nous entrons dans cette seconde partie avec une archive du théoricien du langage Henri Méchenic au micro de Mathieu Bénezet.
Le rapport entre le poétique et le politique, il est poétique. C'est pas simplement des idées, des engagements. C'est vrai que Hugo était sur les barricades. C'est pas ça qui aurait révolutionné la poésie. Et d'ailleurs, si on le compare à Lamartine, entre 1848 et 1851-52, il est archi clair que Hugo n'a aucun sens politique. Celui qui a un sens politique, qui voit venir l'ambitieux chez Louis-Napoléon, c'est Lamartine, qui se répand partout en conférence contre le prince-président. Mais quand le coup d'État arrive, c'est fini, on n'entend plus parler de Lamartine. Il se tait. Poétiquement, il n'a rien à dire. Alors que c'est l'autre qui commence, alors qu'il n'avait rien compris, c'était un jobard complet en politique. Et c'est ça qui est un phénomène étonnant. André Breton avait ce sens-là quand il disait que, je ne sais plus où d'ailleurs, que les plus beaux vers de Hugo sont les vers de lutte contre l'oppression. Mais c'est parce que c'est un phénomène poétique. C'est donc poétiquement que Hugo tient ensemble le poème et le politique.
Donc, quand il fait de la politique, Victor Hugo, il en fait avant tout en romantique, Jean-Marc Ovaz, en
non,
poète.
Je suis pas trop d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a tout le 19e siècle a dit et répété que Victor Hugo était bête. Hein, ça c'est, on l'a entendu.
Et le 20e longtemps, aussi.
Et parfois aussi le 20e, absolument. Ce qui est vraiment lui faire un procès faux. Alors qu'il a été naïf en 48. puisque évidemment son journal, dans les dernières semaines, a bien soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Ça c'est sûr, et qu'il était furieux d'avoir été joué, c'est sûr aussi. Mais bon, Louis-Napoléon Bonaparte s'est présenté quand même avec une candidature un peu progressiste, sociale, etc., à laquelle Hugo pouvait souscrire. Alors bien sûr, Lamartine, mais Lamartine n'aimait pas non plus, n'aimait pas du tout Napoléon Ier, donc c'est un contentieux qui est plus ancien. C'est-à-dire que il n'acceptait pas non plus les poèmes de Victor Hugo à la gloire de Napoléon Ier depuis le début. Et il y a vraiment, Hugo le note, pendant la Deuxième République, Lamartine déteste Napoléon Ier et aime Napoléon III. Moi, c'est aime son neveu, pardon. Moi, c'est l'inverse. Bon, c'est sûr, c'est une vraie différence. Mais que Hugo ait été totalement aveugle pendant la Deuxième République, c'est absurde. Mm-hmm. Pendant quelques mois, naïf, mais pas du tout aveugle.
Alors retournons quand même à Hauteville House, on a laissé Victor Hugo avant la chronique de Jacques Nerson. Alors c'est le clan qui déménage et c'est le clan qui travaille avec le maître pour construire sa légende. Tout le monde y met un peu du sien.
Alors il y a vraiment, là les exils sont assez différents. On va se concentrer sur Jersey et Guernesey. À Jersey, Hugo reconstitue son clan familial, absolument. Donc il arrive à avoir tous ses enfants avec lui, ce qui n'était pas, enfin ceux qui sont survivants, ce qui était difficile puisque ses fils commençaient à être grands, sa fille Adèle aussi, tout le monde, et sa femme, tout le monde se sacrifie à son exil. Et du coup la vie à Jersey est fascinante parce que on a cette espèce de phalanstère qui est là et qui se prête à diverses activités. Donc on a parlé des tables tournantes, mais aussi la photographie, puisque Hugo est un des premiers à avoir utilisé la photographie. En tout cas, c'est son fils qui et avec son compagnon Auguste Vacry.
C'est Charles le photographe.
Charles Hugo, qui alors avec Auguste Vacry, qui était le frère de le frère du mari de Léopoldine, qui les suit aussi en exil, et ils créent un atelier photographique, ils font des très belles photos, et ils sont parmi les premiers, et Hugo, qui est interdit en France, envoie, a compris l'intérêt de la photographie, il envoie son image à ses amis, et il est comme ça, il a une espèce de présence fantomatique sur le territoire. Voilà. Donc là, il y a une époque où on peut parler vraiment de alors tout le monde travaille, François-Victor, le frère, lui, traduit Shakespeare, parle anglais, apprend l'anglais, traduit Shakespeare, et Madame Hugo, la femme de Victor Hugo, elle prépare la biographie de son mari. Bref, tout le monde travaille. Mais quand il arrive à Guernesey, ça se passe beaucoup moins bien, puisque la famille espérait depuis toujours voir un peu plus de vie, c'est-à-dire s'installer à Londres, dans une grande ville, ce que Hugo ne veut pas pour toutes sortes de raisons. Et donc la période de Guernesey, c'est plus du tout ce phalanstère, c'est la solitude progressive. Tout le monde s'en va petit à petit, jusqu'à il y a une phrase que Hugo note dans son carnet, qu'il entend, c'est Victor, François Victor, son fils, qui lui dit « Ta maison est à toi, on t'y laissera seul ». Ce qui est assez rude, puisque Hugo le note lui-même, il devait s'être un petit peu fâché ce jour-là. Et c'est ce qui se passe, chacun des enfants s'en va, tous, pour des raisons différentes, sa femme aussi. Bref, si Juliette n'était pas restée, il serait vraiment retrouvé tout seul à Guernesey.
Alors c'est une solitude très relative, puisqu'on sait qu'il est en contact avec les esprits, hein, même si vous le relativisez. Quoique, tout de même, les esprits des grands auteurs, en tous les cas, l'entourent, Homère, Dante, Shakespeare, Cervantes, et c'est comme s'ils s'étaient trouvés une nouvelle famille avec ces spectres-là.
Oui, alors là, si on peut parler des esprits des auteurs, ou du moins les génies de l'humanité l'entourent, ça c'est certain, mais si vous parlez des séances spirites, etc., c'est vraiment Jersey, il n'y en a plus à Guernesey non plus.
D'accord.
Donc, parce qu'il fallait être plusieurs, il fallait être avec la famille, il fallait être avec... C'était surtout Charles, son fils encore une fois, et son épouse qui aimait beaucoup faire tourner les tables. Et donc voilà, à partir du moment où ils ne sont plus là, il n'y a plus non plus de séances.
Mais en tous les cas, il est imprégné, il vit dans un monde qui est aussi un monde de mort. Il vit au milieu de ces fantômes.
Alors, il recrée un univers, il le recrée matériellement, puisqu'il y a cette œuvre qu'on oublie parfois dans les œuvres de Victor Hugo, qui est sa maison de Guernesey, qui est donc la première maison qu'il achète, hein, quand il était à Paris, Place des Vosges, où il y a son musée aujourd'hui. Il n'était pas propriétaire, il a toujours été locataire. Donc, sa première maison, c'est Guernesey. Et là, effectivement, il l'a construit, construit parce la forme extérieure est restée la même, mais il l'a entièrement transformé à l'intérieur comme un décorateur. Et là, effectivement, il se crée un univers à lui.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs.
Ça, c'est un poème qui est antérieur à l'époque de l'exil, mais je voulais vous tirer quand même vers cette idée qu'il vivait dans un monde qui est aussi le monde des morts, qu'il voit la mort quand même partout à l'œuvre, et donc y compris dans ce fameux poème sur Léopoldine.
Oui, qui a un lien avec l'exil tout de même, puisque c'est un des poèmes les plus connus des Contemplations. Et c'est avec le succès des Contemplations, un dernier recueil de poésie en France à avoir remporté un tel succès, alors que Hugo est en exil et que son théâtre est interdit. En revanche, il arrive à publier son livre en France. C'est avec les droits d'auteur de ce recueil qu'il a pu s'acheter sa maison de Haute-Villehaus. Donc il y avait effectivement un lien important. Et à Haute-Villehaus, il y a ce fauteuil spectaculaire réservé aux ancêtres sur lequel on ne s'assied pas. Il y a tous les membres de la famille. Il vit dans ses souvenirs. Et bien sûr, le plus traumatisant est celui de sa fille morte plus de 10 années auparavant.
Donc il était bien parti pour rester finalement à Haute-Villehaus. Il se sentait finalement assez bien, quoique de façon assez solitaire. Et voilà que l'histoire le rattrape. Cette fois, c'est la guerre de 1870, la chute de l'Empire, et bientôt la Commune. Comment se fait son retour à Paris ?
Le retour, évidemment, est attendu depuis si longtemps.
On ne l'attendait plus quasiment.
Quasiment, c'était très très brutal cette chute de l'Empire. Il se met à la disposition des événements dès la déclaration de guerre. Il se rapproche, c'est-à-dire qu'il va à Bruxelles. Donc il quitte Guernesey dès le mois d'août pour être à Bruxelles. Et à Bruxelles, on est quand même plus près de Paris. Et il attend qu'on lui dise qu'il peut revenir. Il a des amis qui s'occupent de ses affaires en France depuis toujours, hein, Paul Meurice et Auguste Vacry notamment, qui doivent le prévenir. La République est proclamée le 4 septembre. Il rentre le 5 septembre. Il arrive le lendemain à Paris en train.
Discrètement, enfin espère-t-il.
Discrètement, mais il y a une grande foule qui l'attend à la gare du Nord. Et là, il fait un très beau discours des fenêtres qui dominent la gare du Nord. Discours qui a été lu, une partie de ce discours a été lu après les attentats de Charlie. C'est un très beau discours où Paris était très menacé puisqu'on était en pleine guerre franco-prussienne.
Est-ce que c'est dans ce discours qu'il dit « Citoyen, j'avais dit le jour où la République rentrera, je rentrerai » ?
Oui, absolument. Et c'est une période, alors évidemment, il l'attend depuis 20 ans, et en même temps, ça va être une période terrible, puisqu'il arrive en pleine désorganisation, c'est la guerre, le siège de Paris, là-dessus arrivera la Commune quelques mois plus tard, on va très vite, toute cette période qui sera résumée, qui sera retracée dans un recueil de poèmes qui s'appelle « L'année terrible », je le cite tout de suite parce que « L'année terrible », voilà, c'est ce qui retrouve en arrivant en France, c'est « L'année terrible ».
Donc là, il est replongé dans la politique par la force des choses et replongé dans la Commune. Sans doute ne s'y attendait-il pas non plus. Il est ambivalent. À la fois, ce mouvement lui est sympathique et dans le même temps, il est légitimiste par rapport à la République.
La Commune est une période très complexe puisque la Commune est faite par des hommes qu'il a connus pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup, c'était d'anciens exilés aussi, qui en tout cas cas des opposants au Second Empire. Donc il a quasiment autant de partisans ou d'amis du côté des communards que du côté officiel ou des Versaillais presque. Donc c'est une période très très difficile pour lui. Il a plusieurs formules, il essaye d'intervenir pour passer à nouveau sa capacité d'incarner les deux France. Là, ce sera plus les bonapartistes et les monarchistes, mais ce sera les Versaillais et les communards. Et donc, il intervient plusieurs fois pour demander l'arrêt des violences, mais en vain. Et en tout cas, dès la répression de la Commune, il est le seul des écrivains français à prendre parti, sinon pour les communards, du moins en tout cas pour l'amnistie des communards.
Et ce sera son dernier combat politique, celui de l'amnistie précisément des communards.
Voilà, mais qu'il mène dès la fin de la Commune, vraiment tout de suite, dès la répression. Alors il n'arrête pas d'intervenir pour essayer de sauver ces pauvres communards. Ça lui vaut d'ailleurs un nouvel exil, puisque à ce moment il est en Belgique et il est réexpulsé, parce qu'il y a toute une série d'histoires compliquées aussi. Mais c'est certain que c'est son dernier combat politique et qu'il va le mener. Il rentre à la fin au Sénat pour continuer à porter ce combat qu'il remporte finalement 10 ans plus tard. C'est en 80 simplement que l'amnistie est décrétée. Donc 10 ans d'appel à la clémence et à la réconciliation nationale.
Mais finalement, il se fait un devoir d'être à Paris, mais son cœur est plutôt resté à Guernesey, ou d'ailleurs il essaie de rentrer quand il le peut.
C'est la bonne question, puisqu'il était en exil et on peut se demander s'il est jamais rentré d'exil. Il y a une position... Il y repart surtout pour... Bon, à Paris, il a une vie politique débordante, extrêmement compliquée. Tous les ténors de la gauche qui étaient au pouvoir à l'époque viennent le voir. C'est une autorité morale énorme, puisqu'il a... Il est un des seuls à avoir vécu tout l'exil sans rentrer en France. Donc... presque tout le monde vient le voir, donc il est sans arrêt dérangé. Et pour écrire le dernier roman qu'il voulait écrire depuis toujours, ce roman de 93, il repart en exil quasiment volontairement. Voilà, il repart, il va à Guernesey pendant pratiquement un an, presque une année complète, en ayant bien conscience qu'il ne peut travailler bien que là-bas. Donc il se remet dans les conditions de l'exil pour écrire son dernier roman, ce qui est assez étonnant, et il arrive à le faire parce qu'il le termine à Guernesey.
Et alors le 22 mai 1885, c'est donc l'enterrement de Victor Hugo. On parle plus de son enterrement finalement que de sa mort elle-même.
Le 22 mai, c'est sa mort, c'est le 1er juin son enterrement.
Voilà, le 22 mai, c'est sa mort, exactement, pardon.
Et l'enterrement qui est évidemment un phénomène phénoménal, puisque bon, on a plus de 2 million de personnes qui suivent son convoi, et puis on rouvre le Panthéon pour lui, etc. Enfin bref, ça a été un événement énorme de la Troisième République, presque un élément fondateur de la République.
Eh ben, on va écouter justement cet enterrement raconté par Franz Jourdain.
Tout de suite après ce corbillard des pauvres, il y avait, on peut dire, le monde entier, n'est-ce pas ? Depuis les joueurs de boules du Saint-Mandé ou tel groupement de gymnastique, jusqu'aux représentants de toutes les puissances, de toutes les grandes puissances, les ambassadeurs, les académiciens trébuchant dans leur épée, les magistrats, les professeurs de faculté en robe, enfin, une véritable apothéose.
Mais comment était la foule, silencieuse?
La foule là était, la foule était respectueuse et silencieuse. À vrai dire, il n'en allait pas tout à fait de même de la veille au soir. La veille au soir, c'était alors le jour où on a exposé le cercueil de Victor Hugo sous l'Arc de Triomphe. Alors là, j'ai été aussi mené par mes parents dans cette cérémonie. Enfin, cette cérémonie, c'était plutôt une kermesse. Car grande liesse, grande joie, marchand de coco, à la fraîche qui veut boire, n'est-ce pas, c'était, il faut convenir, cette espèce de joie que les Parisiens ont toujours à se retrouver ensemble, peut-être même à chantonner, ou en tout cas à crier, à s'appeler, à se perdre dans la foule, à perdre les gosses, à les gronder, etc. Enfin, vous voyez ce que ça pouvait donner à cet égard-là. La foule n'a pas beaucoup changé. On se rend bien compte, vous savez, la seule chose qui pouvait paraître un peu surprenante, c'est que ce soit autour du cercueil du grand homme.
Voilà pour ce témoignage de l'architecte et décorateur Franz Jourdain à Pierre des Groupes. C'était en 1952. Jean-Marc Ovaz, vous connaissez cette archive ?
Non, et c'est très intéressant d'avoir des... Bon, il y a eu des milliers de témoignages, mais là, pour les entendre, c'est encore mieux. On a beaucoup insisté sur ces débordements, mais quand il y a 1 million de personnes dans les rues, c'est fatal. Je pense, alors bien sûr, ça a été alimenté, ça a été un argument... de l'extrême droite du XXe siècle, avec Barrès qui a commencé à raconter ça, les Goncourt qui l'ont repris, tout le monde, avec tout le monde qui s'est empressé de dire que c'était pas un enterrement, c'était une foire. Bon, je pense que le témoignage est intéressant. Il dit que la nuit, il y a eu des débordements, le lendemain, c'était une foule recueillie. C'était évident et inévitable.
Pour 55. Merci beaucoup Jean-Marc Ovaz d'avoir tracé pour nous les grandes lignes de la vie de Victor Hugo. Il y aurait évidemment encore beaucoup à dire et je renvoie nos auditeurs à votre très grande biographie. Les deux premiers tomes sont disponibles chez Fayard. Demain, nous plongeons dans le Moyen-Âge tel qu'il a été peint par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Ce sera en compagnie d'Adrien Goetz. Mais tout de suite, eh bien, c'est la poésie avec Jacques Bonafé et une semaine consacrée à François Gibault.
Bonjour et bonjour la compagnie. Pour présenter François Gibault, un nuage après l'autre paru chez Gallimard, eh bien on va pas se gêner, on va piquer dans sa préface. Musset n'a-t-il pas écrit dans la nuit de mai « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. En un temps où l'abus d'images dont on nous a accablés a tué l'imagination et où les machines qui nous assistent sont en passe de tuer notre mémoire, il n'était peut-être pas inutile de tenter de renverser la vapeur et de donner dans un genre absolument passé de mode, dit-il. Et ça commence dès la page 13 par « L'air, le feu, la terre et l'onde, Baudelaire et Verlaine, Rimbaud déculotté, petit lapin dans le jardin de ma grand-mère, petit garçon avec son maillot rouge sous la pluie dans la rivière et la cromate et la Bugatti de mon oncle Jean, les fesses de Paul et le cul de Jeanne du côté des étangs de Hollande, bien avant la fin du monde quand il y avait encore des orties, des crapauds, des tortues vivantes, des sexes glorieux, des mollets d'acier, des tartes chaudes à la maison et des nouilles au beurre. » Avec de la farine, on fait du pain, dit-il dans la préface, comme on fait des morts et des mutilés avec des obus et des bombes, de la musique avec des notes, des voix et des instruments, de la peinture avec des couleurs, des toiles et des pinceaux, des discours et de la littérature avec des mots. C'est donc en assemblant des mots que l'on écrit de la poésie, en enfilant des perles que l'on jette ensuite au vent et sans utilité. La chatte se gratte, la mouche se mouche, le chien, et vlant dans les fesses du vieux qui pisse, ça lui apprendra. Leçon pour les jeunes aussi, et les cul-de-jatte, les millefeuilles et les torchons gras. Ça soulage de dire les choses, celles qu'on pense et toutes les autres, enlacées comme des saucisses, vessies et lanternes confondues, troupeaux de serpents verts, montagnes et montagnes de détritus, de chiffons qui puent et de crottes de nez. Et à la page 23 pour Micheline Mousse, cogne mon cœur, cogne encore et encore dans ma poitrine, comme les feuilles des arbres, les nuages dans le vent et la mer recommencée, ne t'arrête pas, ni les cœurs que j'aime, ni les autres après tout, pour que vive la vie, que toujours le soleil se lève, encore et encore et toujours. Et celui-ci pour Jean-Claude Pirotte, autant suspend ton vol, cacadois dans l'eau du bain, au balcon tous les deux, madame a l'air d'une crevette, monsieur d'un cachalot. Ils sont 1000 sur le boulevard avec des pancartes, du saucisson et des frites. Ils en appellent au gouvernement, parti sur les plages en vacances. Edgar n'a pas froid aux yeux, au premier rang du cortège, le tronc sain, les pieds mauves et sa culotte trouée. La pluie s'en mêle, ça vire au pire. Liberté chérie, au secours maman, papa pète les plombs. Rien de rien, le long des golfes clairs, ces messieurs s'empiffrent camembert et bonne d'enfant, ainsi va le monde. Edgar ouvre son parapluie, ses chaussures prennent l'eau. Si ça dure encore, il va rater le dernier métro. Et comme la dernière fois, Hortense va l'engueuler. Encore un petit rajout, un petit gibot? Allez, on y va. Ça va, Léon? Ton jardin, tes chats, ton foie? Mireille t'embrasse. Elle a mal aux dents et aux reins. Le reste va, pas mieux, pas plus mal. Je ne t'ai pas dit, mon chien est mort, c'est moche. La baignoire a débordé au premier. Tu verrais le plafond du salon, celui de mon bureau. La fin du monde. On t'embrasse.
Jacques Bonafé, merci. Vous lisiez des textes de François Gibault.